Bois sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je vous retrouve en direct avec un immense plaisir et jusqu'à 16h, en ce mercredi 1er mai, pour partager ce que vous vivez, vos expériences, et avec moi, à mes côtés, ma chère camarade Ombline, fidèle au poste.
Bonjour oui, ma chère. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Ici, ce qui nous intéresse, c'est vous, vos joies, vos peines, ce qui vous a forgé, ce sont de vos vies dont nous parlons chaque jour à partir de 15h, et ça, quotidiennement. Ils sont nés dans une famille qui n'a pas su ou qui n'a pas pu les accueillir dignement. Ils ont été victimes d'abandon, de négligence, parfois même de violence ou de maltraitance. Un enfant considéré en danger est aujourd'hui placé par l'aide sociale à l'enfance, aussi dit l'ASE. Si certaines familles d'accueil ou foyers sauvent la vie d'un enfant, certains chiffres sont effarants. 70% des jeunes placés n'ont aucun diplôme lorsqu'ils sortent du système. Un SDF sur 4 est un ancien enfant placé. Ces chiffres, révélés par un rapport du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, posent vraiment question. Comment protéger un enfant en danger? Quels sont les dysfonctionnements du système et comment éviter toutes les dérives? Quel est le parcours d'un enfant placé? Enfant en danger, comment les protéger? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Oui, vous n'hésitez pas à composer ce numéro que vous connaissez bien maintenant, le 39 21 50 centimes la minute. C'est le standard d'Europe 1. On vous écoute et vous attend. On vous lit aussi, je le rappelle, Twitter, hashtag Europe 1. On vient le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Elliot sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Elliot.
Bonjour.
Je crois que vous nous appelez d'Irlande, où vous êtes jeune homme au pair. Quel âge avez-vous?
Alors j'ai 25 ans et effectivement je suis bien en Irlande, voilà, depuis bientôt 9 mois.
D'accord.
Un contrat d'un an.
Bon, et comme jeune homme au pair donc?
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors Elliot, de vos 6 ans à vos 9 ans, vous avez connu différentes maisons et différents foyers d'accueil. Ces placements étaient à la demande de votre mère, hein, je crois, qui au départ vivait des violences conjugales. Où vous a-t-on placé au début?
Alors oui, voilà, c'est ça. Alors au début, il y a eu un premier accueil dans un centre, ce qu'on appelle accueil urgence femme, oui. Destiné voilà, aux femmes victimes de violences conjugales avec leurs enfants, oui. Qui est provisoire pour nous. Et ensuite, il y a un deuxième placement, donc on appelle ça un foyer départemental de l'enfance, pour une période d'observation, donc à la demande de notre mère, mais aussi du fait de ses difficultés d'adaptation, en fait, dans cet accueil d'urgence.
Oui.
Et finalement, un retour à la maison, même si voilà, l'aide sociale à l'enfance a sollicité le juge des enfants en raison des dysfonctionnements. Mais voilà, donc deux courts placements pendant cette période-là.
D'accord. Mais alors, de retour à la maison, je crois que vous avez connu à nouveau la même situation, puisque votre mère a fugué avec vous chez des amis. Et à l'âge de 9 ans, lorsque vous avez intégré une première famille d'accueil, hein, est-ce que vous vous êtes senti soulagé? Est-ce que vous vous êtes senti plus en sécurité lorsque vous avez intégré cette première famille d'accueil?
Alors oui, cette première famille d'accueil, donc en effet, donc après le retour à la maison, il y a en fait ce qui provoque en fait le placement en famille d'accueil, c'est le décès en fait de mon père.
Oui.
À cause de ça. Mmh. Puisque l'ASE, à ce moment-là, prend conscience que le danger dans la famille est imminent.
Oui.
Et donc, voilà, on est placé en famille d'accueil. Et donc, effectivement, la notion de sécurité, tout change. Tout doit se réapprendre. On apprend les règles et faire confiance aux adultes.
Oui, parce que j'imagine que depuis 9 ans, hein, du haut de vos 9 ans, la confiance en l'adulte a été... qu'égratigné avec tout ce que vous aviez vécu déjà. Vous dites que selon... Pardon, excusez-moi.
Oui, clairement, vous avez raison. Oui.
Mm-hmm. Vous dites que selon les familles où l'on tombe, le climat n'est pas le même. Racontez-moi pourquoi vous dites ça.
Alors en fait, je dis ça parce que j'ai le souvenir, donc avant d'être en famille d'accueil pour une longue durée, oui. On a dû faire des familles d'accueil relais, donc dans l'attente d'une famille d'accueil. Et j'ai le souvenir d'une famille où, clairement, ils étaient là pour l'argent.
Oui.
Donc, ils déduisaient, en fait, chaque achat, le kilométrage de l'essence, voilà, pour nous emmener à droite et à gauche. Mm-hmm. Et tout était déduit et voilà, on finissait le repas, on remontait dans notre chambre, il n'y avait rien, voilà, pas d'affection, le minimum syndical.
Ouais, ouais. On verra de toute façon que le dysfonctionnement majeur de l'enfance en danger et de ses placements, ce sont ces familles qui ne font pas ça par conviction, par vocation, mais qui ne font ça que pour l'argent, et que souvent, les enfants qui sont placés dans ce type de famille, eh bien, vivent un nouvel enfer, je dirais. À l'âge de 9 ans, vous et votre frère, vous avez intégré une famille d'accueil dans laquelle vous êtes resté jusqu'à votre majorité. Vous dites que cette famille vous a sauvé. Racontez-moi comment, de quelle façon cette famille vous a sauvé.
Alors oui, du coup, voilà, donc cette famille d'accueil, voilà, pendant 8 ans, et encore après, je suis restée 3 ans, oui. Alors à titre gratuit, mais c'est pas le cas à tout le monde. Effectivement, voilà, cette famille-là, ben moi, j'ai tout appris, je me suis construit, voilà, comprendre que l'environnement dans lequel je vivais, ben c'était pas normal, et voilà, qu'on pouvait vivre autre chose. Et voilà, l'affection et l'amour qu'on n'avait pas donné, ben je l'ai reçu dans cette famille d'accueil, clairement. Ouais.
Vous vous êtes construit dans cette famille, vous avez pu vous poser avec votre demi-frère. Il est resté avec vous ou vous étiez seul dans cette famille?
Alors oui, non, il est resté avec moi quasiment jusqu'à sa majorité.
Oui.
Et voilà, on a suivi une scolarité normale.
Merci pour votre témoignage, parce que vous racontez quelque chose d'essentiel, Elliot, cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. C'est que cette famille vous a seulement aidé à pousser, à vous construire, à reprendre confiance en vous, en la société. Mais les 3 ans que vous évoquez, les 3 ans après votre majorité, là où plein d'enfants placés sont complètement largués dans la nature, et c'est ce pourquoi on retrouve un SDF sur 4 qui est un ex-enfant placé. Vous avez eu cette chance. Merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, Elliot. Et puis, bon courage pour votre mission d'homme au pair en Irlande. Dans quelques instants, nous serons avec Cécile. Elle a 17 ans. Elle est installée dans un foyer à Strasbourg. Et à travers une chanson, on va le voir, elle a voulu parler de son quotidien.
Europe 1. Des enfants abandonnés, victimes de négligence, de maltraitance, des enfants placés, comment les protéger? Vous témoignez, nous vous écoutons cet après-midi au 39-21. Vous réagissez, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons des enfants en danger, pris en charge dans un système qui peut parfois dysfonctionner. On vous écoute au 39-21.
Et nous avons eu Elliot sur l'antenne d'Europe 1 qui nous expliquait d'Irlande, où il est homme au pair, combien il avait eu la chance de tomber dans une bonne famille d'accueil qu'il avait même gardé 3 ans et gratuitement après sa majorité, ce qui a sûrement tout changé pour ce jeune homme qui pourra entamer la vie une belle et en tout cas un joli chemin. Nous sommes maintenant avec Cécile. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Cécile.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Donc j'ai 17 ans et je vous appelle de Strasbourg.
D'accord. Alors vous, Cécile, vous avez été placée à l'âge de 15 ans et cela fait plus d'un an que vous êtes à la maison des apprentis d'Auteuil de Strasbourg qui accompagne des jeunes et des familles fragilisées. Au départ, est-ce que vous appréhendiez de vivre en communauté?
J'appréhendais beaucoup parce que c'est quelque chose qui n'a pas été facile pour moi parce que je suis quelqu'un de très solitaire. Du coup, j'ai tendance à vivre un peu de mon côté et c'est vrai que je n'étais pas habituée à la communauté.
Alors, je précise que les apprentis d'Auteuil, on les trouve un petit peu partout en France. C'est une association qui aide à la formation des jeunes. Vous m'arrêtez si je me trompe, et qui accompagne les jeunes en difficulté.
Tout à fait, c'est ça.
Comment ça se passe au quotidien pour vous, Cécile?
En fait, tout dépend des jours, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça peut très très bien se passer, où on est tous super convivial, on passe de très très bons moments, et il y a d'autres moments où c'est plus compliqué, ou parce qu'il y a des tensions, et c'est un peu plus compliqué à gérer, mais en majorité, ça se passe généralement très très bien.
Bon, mais qu'est-ce qui est le plus dur à vivre aujourd'hui pour vous?
Le plus dur à vivre, je dirais, c'est le fait surtout de ne pas, entre guillemets, avoir les libertés qu'on peut avoir dans une famille, c'est-à-dire que je ne peux pas forcément voir mes parents quand j'en ai envie, je ne peux pas partir quand j'en ai envie.
Oui.
C'est assez restreint, mais après, on le vit très très bien et on s'adapte.
Bon, mais en tout cas, j'entends dans votre voix, et j'évoque votre voix parce qu'on va parler justement de cette jolie voix que vous avez, parce qu'il y a quelques mois, vous et vos amis du foyer, vous vous êtes lancés dans un superbe projet, la création d'une chanson. On va en écouter un extrait d'ailleurs.
Mais maintenant je me suis fait à mon drôle de foyer. Puisqu'il le faut, oh, 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 je vise le haut. Oh, oh,
oh. Que voulez-vous faire passer à travers cette chanson, Cécile?
Ben, cette chanson, c'est essentiellement un message d'espoir parce que c'est essentiellement le but qu'on voulait faire. Et toutes les filles, on voulait un peu détruire les préjugés qui sont liés autour des enfants placés en foyer.
Mmh. Elle est sacrément jolie, cette chanson. Elle est sacrément bien produite. Je vous fais toutes mes félicitations. Vous dites que sans le foyer, vous n'auriez jamais pu faire tout ce que vous avez fait. Autant voyager aussi. Qu'est-ce que vous allez retenir de toutes ces années?
Je pense que ce que je vais retenir, c'est que peu importe d'où on vient, on peut toujours réussir et qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. Et que même si on a eu une différence dans la vie, on peut très bien arriver à faire des choses très grandes, oui, avec beaucoup de volonté.
Mmh. Vous appréhendez votre majorité, votre départ du foyer, parce que comme on l'évoquait avec Elliot, qui a eu la chance d'avoir 3 années encore après sa majorité avec cette famille finalement qui l'a adopté, hein, puisque c'était gratuitement et on sent combien ça lui a fait du bien. Vous, comment est-ce que vous appréhendez cette période de votre vie à venir?
J'appréhende un peu parce que c'est sûr que je vais passer d'un collectif où on est 11 à... Donc, je vais être toute seule dans un appartement, donc c'est sûr que ça va me chambouler un peu parce que j'aurai plus personne, on va dire, qui va me suivre derrière, me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire et quand je dois le faire. Donc c'est vrai que ça fait assez peur et pas autant que pour un enfant placé. Je veux dire, pour un enfant normal, ouais, aussi, ça peut, ouais, être très flippant, mais on n'a pas les aides qu'on a chez une famille et qu'on a dans un foyer.
Bien évidemment, mais vous dépendez donc de l'ASE de Strasbourg. Donc du conseil général, hein. Je crois que l'ASE, c'est le conseil général qui finance l'ASE. Cela veut dire que là-bas, dans la région de Strasbourg, on accompagne quand même les majeurs, on continue à leur fournir un appartement, comme vous l'évoquez, on les suit un peu.
C'est ça, tout à fait. On continue d'aider les jeunes majeurs, on les suit. Et donc il y aura toujours quelqu'un qui va... Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui va vous aider, qui vous accompagner sur certains points jusqu'à, ouais, ce qu'on puisse totalement prendre notre envol.
Ça doit quand même vous rassurer quelque part de ne pas être lâché dans la nature comme ça, parce que je rappelle qu'il y a des départements et des conseils généraux où l'ASE stoppe totalement d'accompagner des jeunes majeurs comme vous. Que pensez-vous de cela, d'arrêter totalement, d'un seul coup, de s'arrêter à la majorité?
Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut anticiper comme ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé et de mon point de vue, c'est toujours être positif d'être accompagné.
Oui. Bon, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que vous le serez. Ce qui me rassure, c'est que cette belle voix risque d'avoir créé en vous quelques vocations, hein, et il faut continuer à faire cette jolie musique que vous faites. Merci beaucoup, Cécile, et encore bravo pour ce projet avec vos copines, hein, de cette jolie chanson. Dans quelques instants, nous serons avec Laura Iso. Elle est éducatrice spécialisée et elle a coécrit l'ouvrage « Du côté des enfants en danger » disponible aux éditions Équateur.
Europe 1. Nous parlons des enfants en danger cet après-midi. Comment se construire quand on est placé, quand on est ballotté d'une famille à l'autre? Si vous souhaitez apporter votre témoignage, vous n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire Twitter, hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Protéger un enfant en danger, un enfant qui a subi des violences, vous avez été placé, vous souhaitez témoigner, on vous écoute au 39 21 50 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous écrire, nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Laura Iso, éducatrice spécialisée et co-auteure du livre « Du côté des enfants en danger ». Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 en ce 1er mai. Bonjour, vous êtes éducatrice spécialisée. Alors, avant que nous entamions notre conversation, expliquez-moi ce qu'est votre métier, parce que vous accompagnez les enfants, vous vous rendez dans les familles d'accueil, vous contrôlez si tout se passe bien. Éducatrice spécialisée, c'est quoi ?
Alors, moi, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille dans une association qui travaille dans le champ de la protection de l'enfance.
Oui.
Je travaille sur des missions qui sont ordonnées par un juge des enfants, qu'on appelle des missions d'AEMO, d'action éducative en milieu ouvert,
oui.
Qui sont des missions qui visent à soutenir la parentalité pour des enfants qui sont maintenus au sein de leur famille.
D'accord.
Donc l'axe principal de mon travail, c'est l'alternative au placement.
D'accord.
Moi, les familles que j'accompagne, les enfants vivent avec leurs parents.
D'accord. Alors oui. Vous êtes donc éducatrice spécialisée, comme vous venez de nous l'expliquer. Et dans votre ouvrage, vous avez voulu raconter votre métier de l'intérieur. Pardon. Comment accueille-t-on un enfant en danger aujourd'hui ? Est-il nécessairement séparé de ses parents ? Mais bon, vous venez de nous dire que ça n'était pas obligatoire. Quelles conditions, en fait, font qu'on va séparer un enfant de ses parents ?
Alors, peut-être quand même une des spécificités de la politique de la protection de l'enfance en France, c'est que le placement, c'est vraiment le dernier recours.
Oui.
C'est la dernière alternative, contrairement à d'autres pays. Il y a eu un reportage absolument hallucinant
sur le
système de protection de l'enfance en Angleterre.
Mmh.
En France, on ne fonctionne pas du tout sur ce mode-là. On a une politique plutôt familialiste
oui.
et qui tend, dans la mesure du possible, à maintenir les enfants au sein des familles par un ensemble de mesures préalables à l'éventualité d'un placement pour apporter aide et conseils à la famille. Moi, c'est l'axe de mon travail.
Oui.
Et la question du placement, elle intervient vraiment que s'il y a des dangers graves, répétés, chroniques, et que les mesures précédentes n'ont pas permis de faire évoluer.
Mmh. On est dans la question essentielle, hein, dans les décisions qui sont prises de l'intérêt hein, de l'enfant. Mais oui. Comment le savoir, justement ?
Alors, l'intérêt de l'enfant, c'est une notion qui est effectivement primordiale en matière de protection de l'enfance, mais en même temps, on voit bien que c'est une notion assez floue, qui n'a pas de définition légale stricte et qui laisse une libre part d'appréciation et de subjectivité aux professionnels de la protection de l'enfance. C'est une des difficultés majeures de ce métier. C'est pour ça qu'on travaille avec le doute permanent de nos appréciations et de nos évaluations.
Oui.
Ce qui va être adapté pour un enfant ne va pas l'être pour l'autre. C'est pour ça qu'il y a une nécessité, me semble-t-il, dans le travail de la protection de l'enfance, à travailler dans des équipes pluridisciplinaires, à croiser différents regards
oui.
Pour tenter d'appréhender les solutions les plus justes et qui vont servir au mieux l'intérêt
oui,
de l'enfant.
Oui, parce que pour appréhender ces solutions, il faut tout de même pénétrer l'intimité d'une famille et bien connaître les enjeux qui sont posés face à cet enfant. Et justement, en fait, c'est là où votre métier est quand même délicat et qu'il faut croiser plusieurs avis. En avril dernier, Perrine Goulet, députée de La République En Marche de la Nièvre et ancienne enfant placée, était invitée au micro de Nikos Aleïgas dans la matinale d'Europe 1. Et elle disait ceci, écoutez.
On se rend compte que tout au long du parcours, même placé dans les foyers, ça ne fonctionne pas. Des ruptures de parcours, ce qui fait qu'ils perdent confiance en eux. Donc des difficultés pour suivre la scolarité. On sait que 2 enfants sur 3 qui arrivent en 6e ont déjà un an de retard quand ils sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et donc tout ça va continuer par la suite jusqu'à la sortie qui est mal accompagnée, puisque comme vous l'avez dit, et selon le dernier rapport effectivement de la Fondation Abbé Pierre, 28% des SDF ils sortent de l'aide sociale à l'enfance.
28% des SDF sortent de l'aide sociale à l'enfance, 1 SDF sur 4. Ce chiffre, comment l'explique-t-on aujourd'hui, Laura Izzo ? Parce qu'il il sonne comme l'échec de la politique de l'aide à l'enfance.
Mais tout à fait, c'est un chiffre qui est absolument effarant.
Hallucinant.
C'est-à-dire que ces enfants qui normalement ne représentent que 2 à 3% de la population sont surreprésentés dans les situations, dans les personnes en situation de grande précarité. Donc évidemment, ça témoigne d'une problématique et d'un échec de la sortie des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance.
Mmh, alors
qu'est-ce qui se passe
ouais.
Pardon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les prises en charge au titre de la protection de l'enfance s'arrêtent majoritairement à 18 ans.
Oui.
Il y a la possibilité, par le biais de ce qu'on appelle des contrats jeunes majeurs, qui sont financés par les départements, de prolonger les prises en charge du jeune au-delà de sa majorité, mais c'est en fonction de son projet personnel, professionnel, et l'obtention de ces contrats, elle est de plus en plus aléatoire,
oui,
faute de moyens suffisants. Moi, j'ai connu une époque où il était possible d'accompagner des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans,
oui,
parfois même au-delà. Et puis, ben, il faut quand même le dire, c'est les effets des politiques néolibérales restrictives sur les dépenses publiques et en particulier les dépenses sociales qui se font sentir. L'État a réduit de façon drastique les dotations aux départements.
Oui.
Et donc, on assiste à cette situation qui est tout à fait dramatique sur le plan humain pour ces jeunes. En pratique, je crois que c'est seulement un tiers des jeunes qui atteignent leur majorité qui bénéficient d'un contrat jeune majeur.
Oui.
Donc on est dans une espèce d'aberration qui est qu'on demande à des jeunes qui ont des parcours de vie cabossés,
oui,
qui du fait de difficultés familiales, de ruptures dans les prises en charge, ont eu plus de mal que les autres à suivre une scolarité. On leur demande d'avoir un projet clé en main, d'être super autonome. Sinon, c'était sorti sèche. Et on sait très bien que s'ils ont été placés, c'est bien que les familles ne pouvaient pas garantir leur protection. Et c'est comme si tout d'un coup, sous prétexte qu'ils avaient 18 ans, on s'en lavait les mains. C'est une honte, c'est un scandale.
Oui, oui. Alors, je dois préciser juste une chose, c'est que lorsque vous évoquez les politiques, les politiques qui ont mené à cet échec, le gouvernement actuel reprend les choses en main. Il y a même un ministère qui a été créé pour cette enfance en danger. Et il est bon de le souligner en ces temps où on pense plein de choses négatives. Aujourd'hui, on a un ministre qui est spécialement, en tout cas un secrétaire d'État qui est spécialement dédié à cette mission et qui vraiment s'occupe particulièrement de cette période qui est justement la majorité de ces enfants que l'on ne peut pas lâcher comme ça et que l'on doit continuer absolument à aider, à accompagner pour qu'ils puissent se construire et justement rentrer dans le monde du travail. Laura Izzo, je rappelle que vous êtes éducatrice spécialisée et co-auteur de l'ouvrage Du côté des enfants en danger. Restez en ligne avec nous, nous allons continuer de parler du quotidien de ces enfants, mais aussi des familles d'accueil. Nous serons dans quelques instants avec Souria. Elle accueille des enfants sous son toit depuis plusieurs années maintenant.
Et la réaction de Marion sur Facebook, qui nous dit qu'il est important de faire de la prévention. C'est vrai qu'il existe de nombreuses associations. Marion, par exemple, parle de l'association Il faudra leur dire, qui est située à Perpignan. Et si vous souhaitez soutenir les enfants placés en France, vous pouvez faire un don. Vous pouvez aussi devenir parrain ou marraine d'un enfant placé en vous rendant sur le site de l'association France Parrainage. C'est france-parrainage.org.
Et ils en ont grandement besoin, croyez-moi.
Europe 1.
Vous composez le 39-21 pour venir témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Nous parlons de l'enfance en danger. Quel est le parcours d'un enfant placé? C'est votre histoire. Vous êtes famille d'accueil. Nous vous lisons aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons cet après-midi de l'enfance en danger. Vous témoignez sur Europe 1. 39-21, Olivier Delacroix vous écoute.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Souria. Bonjour Souria, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Souria?
Je vous appelle de Vendée, j'ai 57 ans.
D'accord.
Et ça fait 11 ans que je suis assistante familiale.
Voilà, depuis 2008, vous êtes famille d'accueil. C'était une vocation au départ, comment c'est arrivé tout ça?
Pas du tout. Je m'occupais de la saison culturelle d'une ville d'à côté et je connaissais pas du tout. Enfin, j'étais loin d'imaginer qu'un monde. Maintenant, j'appelle le monde parallèle en fait.
Oui, oui, oui.
Ce monde des enfants maltraités. Enfin, quand on a soi-même été parent, qu'on a élevé ses enfants. Enfin bon, que voilà, on n'imagine même pas en fait qu'il puisse y avoir autant de souffrance en France.
Nous étions en train de l'évoquer avec Ombline hors antenne. C'est vrai que on oublie qu'on parle de petits, on parle et que nous avons, nous, tous les deux des enfants, Ombline et moi, et que
ils ont beaucoup de chance.
Voilà, ils ont beaucoup de chance et que on oublie souvent que bien plein d'enfants chaque année sont placés parce que victimes de maltraitance, victimes de violence, en tout cas pour tout un tas de raisons. Quel souvenir vous gardez des premiers enfants que vous avez accueillis, Souria? Est-ce que vous aviez peur? Vous vous sentiez préparé à faire cette mission?
Alors, on a une formation. Hein. Toutes les assistantes familiales, maintenant, ont une formation obligatoire.
Oui.
Donc, on est préparé, mais on ne peut jamais l'être, en fait. On parle d'humain et, en fait, on ne sait pas du tout quel enfant on va recevoir. On ne sait pas du tout comment, lui, il va nous recevoir. C'est énorme pour lui comme pour nous.
C'est une rencontre.
La rencontre va se faire ou pas. Et on est obligé de faire avec, quoi.
Alors, je sais que, voilà, depuis 2008, vous y êtes resté hein, dans cette vocation. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, Soria ?
Eh bien, c'est des petits instants. Alors, déjà, moi, j'ai une maison qui est faite pour le partage. Elle a toujours été faite pour le partage.
Oui.
De musiciens, pas seulement d'enfants. C'est une maison qui est...
Voilà, c'est la maison du bonheur ?
Voilà, qui est organisé autour de ça.
Mmh.
Et en fait, quand on m'a parlé de cette profession, eh bien, j'ai mis un sacré bout de temps avant de me dire, bah oui, c'est pour nous. Et on a commencé cette profession et en fait, un peu, on va dans l'inconnu obligatoirement. Mais en fait, une enfant que vous recevez et qui peut être complètement désincarnée, vous savez. Quand vous lui dites des petites phrases de tous les jours, ça peut être à table avec plein de monde en disant bah tiens, le bonheur il existe, il est là, on est en train de le vivre, voilà, c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Quand on lui explique que voilà, son enfance c'est un tout petit bout de sa vie, mais que plus tard il y a le bonheur derrière, puisque si elle le décide, il n'y a aucune raison qu'elle ne l'atteigne pas, enfin voilà, et que vous voyez un enfant s'incarner. Mais s'incarner réellement, c'est...
C'est ça en fait, c'est ça qui vous nourrit, ouais.
Ah oui, c'est immense, quoi.
Et alors, au milieu de ce voilà de tous ces sentiments naissants de ce bonheur hein, que l'on peut apporter à ces enfants qui jusqu'à maintenant n'en avaient presque pas connu ou pas du tout, comment ne pas s'oublier soi-même? Et sa propre famille quand on est famille d'accueil, parce que je suppose que voilà, vous avez un mari, des enfants, comment composer justement avec ces enfants?
Alors en fait mon mari a ses passions, donc là c'est la musique.
Oui.
Et moi j'ai fait d'autres formations, c'est-à-dire que je suis allée moi par exemple vers le shiatsu, mais je conseille vraiment à tous les assistants familiaux, effectivement, c'est vraiment la bonne question, de ne pas avoir la tête dans le guidon tout le temps.
Oui.
Parce que c'est trop difficile.
Oui, oui.
On a un tel poids sur les épaules.
Ça doit demander vraiment une énergie énorme.
Oui.
Elliot, en début d'émission, nous disait que certaines familles d'accueil ne faisaient ça que pour l'argent, que ça leur rapportait. Vous dites... que c'est très compliqué financièrement. Expliquez-nous pourquoi.
Mais parce qu'en fait, notre fixe, il est, pour un enfant accueilli, il est de 800, entre 700 et 800 euros brut.
Oui.
Brut.
Bah donc, c'est donc pas beaucoup.
Ben non. Et quand je l'entendais dire, elle prenait note de tous ses déplacements et de tout. Mais ça, c'est un enfant qui a eu du mal à accepter que c'était aussi un métier.
Mmh.
Et toutes ces formalités, on s'en passerait bien, mais ça nous est demandé par les services.
Bien sûr.
Alors Soria, c'est vrai que vous parlez surtout quand on aborde cette question financière d'un métier, mais émotionnellement, que ressentez-vous quand un enfant s'en va, quitte votre maison du bonheur, et quelle relation entretenez-vous avec cet enfant qui est parti?
Ah ben écoutez, j'en ai un qui est en partance, qui a 18 ans, donc j'ai vraiment, je suis vraiment dans le cadre du contrat jeune majeur qui va être, j'espère, mis en place.
Hein, oui.
Il dépend de l'ASE de Paris. Bon. Je devrais peut-être pas le dire, mais de toute façon, il reste avec nous.
Enfin,
je
veux dire, de toute façon.
Et puis j'ai même, quoi. Tout à l'heure, en mangeant, on parlait du Pakistan, et mon conjoint disait, oh, tu pourrais faire ça au Pakistan. Voilà, les olives n'existent pas là-bas, ça pourrait être super parce qu'il est dans la cuisine.
Ouais.
Et effectivement, il répondait, ah, bah ouais, ça serait bien et tout. Mais j'en ai gros le cœur. Je lui souhaite en fait,
ouais.
Mais j'en ai gros le cœur, quoi. J'ai dit, mais attends, je te verrai plus. Enfin, On a déjà prévu toute la famille d'aller au Pakistan.
Ben oui, il est devenu l'un des membres de votre famille. Cela me fait penser à une famille d'accueil dont la femme s'appelle Zora, elle est en Isère, et on entend la même chose que dans votre voix. Et c'est tout simplement de l'amour qu'on entend, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est que je pense que la vocation première de ces familles d'accueil, c'est de savoir offrir de l'amour à ses enfants. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, pour vous, Souria, comme pour Zora en Isère, encore un département qui marche bien dans l'accompagnement de ces majeurs, et bien c'est pour ça que ça marche bien et que ces enfants reviennent après, toujours, à Noël, aux anniversaires, et qu'ils finissent par faire partie de la famille. Merci mille fois, Souria, pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Adrien. Il a été ballotté de famille en famille dans son ouvrage « Placé, déplacé, de famille d'accueil en foyer, le combat d'un enfant sacrifié ». Il raconte son enfance difficile et il n'est pas vraiment tendre avec le système.
Europe 1. Comment venir en aide à un enfant en danger? Vous avez été placé en famille d'accueil. Comment vous êtes-vous construit? Vous êtes éducateur, vous prenez en charge des enfants victimes de maltraitance. On vous écoute sur Europe 1, vous composez le 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Maltraitance, alcoolisme parental, fugue, carence de soins des enfants en danger, des enfants placés. Nous en parlons avec vous cet après-midi de cette enfance en danger au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Adrien. Bonjour Adrien.
Bonjour Monsieur Delacroix.
Bonjour.
Merci de me recevoir.
Bon, vous pouvez m'appeler Olivier. Hein. Ça me fait toujours tout drôle quand
Olivier.
On m'appelle Monsieur Delacroix. Hein quel âge avez-vous Adrien, et d'où nous appelez-vous?
J'ai 27 ans et je réside actuellement sur Saint-Étienne.
D'accord. Alors Adrien, le 10 mai 1997, la justice a décidé de retirer à votre mère votre garde et celle de votre demi-frère. Vous aviez alors 5 ans, lui en avait 1. Vous avez été envoyé dans un foyer d'urgence. Vous dites que c'était comme entrer dans un hôpital sans être malade. Quel souvenir gardez-vous de cette entrée à 5 ans?
Alors, juste pour rectifier, vous avez mis la date du 10 mai. Alors, c'est exactement le 30 octobre 1997 que l'ordonnance de placement a
D'accord.
été prononcée. Provisoire, en fait, il s'est passé dans mon dossier. On a commencé par du provisoire, puis après, ça s'est enlisé dans le temps.
D'accord.
Alors, pour toute procédure de placement, alors, jusqu'à aujourd'hui, quand on place un enfant, on est accueilli dans des structures d'urgence,
oui.
dont l'IDF fait partie. Et c'est un centre, en fait, où on regroupe toutes les situations d'urgence d'adolescents, de jeunes mères aussi, victimes de violences conjugales.
Oui.
Et là, dans ces centres-là, on va analyser, voir comment les enfants se tiennent, on va dire, à peu près. Et par contre, on est avec d'autres cas, on va dire, d'autres cas très délicats. Et on est regroupé avec, alors ça c'est par tranche d'âge, ça va jusqu'à 18 ans, donc vous avez la pouponnière jusqu'à 3 ans, puis après
oui.
vous avez des groupes qui, entre guillemets, entre deux tranches d'âge, vous avez les 5, 7 ans, après les 8, 12, etc. Et par contre, les plus violents, ce sont entre les 16 et 18 ans, où là, il y a eu des scènes de saccage quand même dans ces établissements-là, puisque en tant que petit, on vous sépare, mais vous êtes, comment dire, vous côtoyez les grands, ces grands adolescents,
oui.
et
oui,
la cohabitation n'est pas très sereine. En fait.
La cohabitation n'est pas très sereine. Vous parlez de saccage lorsqu'il ne s'agit pas de violences sexuelles, parce que j'ai lu le bouquin de Lies. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre où, comme vous, il a été recueilli dans un foyer comme ça. Il avait 9 ans et il a subi des violences sexuelles. Donc, ce type de foyer d'urgence, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à faire et à surveiller et à refaire surtout. Vous avez été ensuite placé dans plusieurs familles, des familles qui n'ont pas été assez soucieuses de vous, de votre avenir, c'est ce que vous dites. À quoi cela a été dû, à votre avis?
Alors, j'ai été d'abord placé dans une famille d'accueil, dans une campagne, dans une première famille d'accueil où on est resté un an et demi, où là, il n'y avait pas de violence, mais la famille d'accueil se tenait à l'écart quand même. On sentait qu'il n'y avait pas vraiment d'affection. Elle faisait le travail, on va dire, qu'on lui demandait de garder les enfants en danger, mais ça n'allait pas au-delà de ce que je peux entendre depuis tout à l'heure, de la relation affective qu'on peut construire, etc. Ça s'arrêtait juste uniquement, vous êtes déplacé, je fais le service après-vente que le département me demande, en fait.
D'accord, c'est-à-dire on vous fait manger, on s'occupe à peine de vous, entre les repas, c'est ce que vous voulez dire ?
On me fait dormir, on me met dans une chambre, on a une chambre pour les jeunes placés.
Enfin, une éducatrice venait régulièrement voir de quelle manière vous viviez ou
Elle venait pas souvent, j'ai pas le souvenir qu'elle venait très souvent parce qu'on était à la campagne et puis le centre, la maison du département où on était rattaché était plutôt au centre-ville à Lyon, donc ce qui fait que les éducateurs ne venaient pas vraiment souvent la voir. Mmh. Et par contre, en revanche, là où tout a basculé, c'est quand j'ai atterri dans une famille d'accueil en 99, où je le raconte dans mon livre, je sais pas si vous avez lu ce passage, où là, tout a basculé de façon très violente, où j'ai atterri dans une famille d'accueil radicalisée, islamiste, que le Conseil général n'a pas voulu supprimer son agrément pour diverses raisons. Et je le raconte dans mon livre, cette emprise, on va dire, cette emprise religieuse, en fait. C'est une famille d'accueil, en fait. Cette famille d'accueil-là, pour faire court, ne voulait pas intégrer le projet de l'enfant. Ce qu'elle voulait, c'était l'argent, bâtir sa réflexion religieuse, c'est tout ce qu'elle voulait faire. Et le conseil général, le département qui devait la suivre, s'est couché devant cette famille d'accueil en expliquant que pour éviter le racisme et l'islamophobie, on devait laisser gérer cette famille d'accueil, malgré certaines dérives que les éducateurs reconnaissaient.
Alors, ce que vous évoquez, bien évidemment, Adrien, c'est ce que nous avons évoqué avec Laura Iso, c'est que ces familles d'accueil qui sont au centre de la protection de l'enfance, bien évidemment, doivent être régulièrement visitées et qu'aujourd'hui, il semble, selon les départements, que ça ne soit pas le cas. J'incite, bien évidemment, tout le monde, tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, et puis les enfants qui ont vécu aussi en famille d'accueil, à lire votre livre, donc Placé, déplacé, de famille d'accueil en foyer, le combat d'un enfant sacrifié. C'est disponible aux éditions Michalon, et si j'incite tout le monde à lire ce livre, c'est pour voir combien une enfance peut être saccagée et combien il faut de force pour que vous nous appeliez aujourd'hui, Adrien, et que vous ayez redressé la tête. Bravo et bonne continuation à vous. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui sur notre antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Pascal. Il y a quelques années, elle a été déléguée du Défenseur des droits et elle s'est beaucoup occupée de cette protection de l'enfance.
Europe 1. Des enfants en danger qui sont placés dans des familles d'accueil. C'est votre histoire, nous vous écoutons au 39-21. Sur Europe 1, nous parlons de l'enfance en danger. Comment les protéger ? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et avant d'accueillir Pascal, nous sommes toujours en ligne avec Laura Iso, qui est éducatrice spécialisée et qui a coécrit l'ouvrage Du côté des enfants en danger. Laura Iso, on vient d'entendre le témoignage d'Adrien. Et lorsqu'on entend que cet enfant, qui est aujourd'hui grand, atterrit à un moment dans une famille... Bon, qui est musulman, mais qui semble être radicalisé, qui semble n'avoir qu'un but, c'est de prendre de l'argent et rien d'autre. On sent combien cet enfant a passé un très très mauvais moment. Comment est-ce possible encore aujourd'hui qu'une famille comme celle-là, on ne lui retire pas son agrément ?
Mais c'est très difficile de réagir après le témoignage d'Adrien parce que c'est évidemment très bouleversant et on est immédiatement très solidaire des souffrances qui ont été les siennes. C'est inacceptable, évidemment. Ça veut dire que probablement il faut renforcer le système de contrôle des familles d'accueil, mais quand même je tiens à préciser que même si ça arrive et que ça en aucun cas acceptable, ça reste, me semble-t-il, des situations heureusement en marge. Oui. Et que dans la majorité des familles d'accueil, on a eu le témoignage de Souraya qui est famille d'accueil, ou même des Elliot au début des missions, dans la majorité des familles d'accueil, ça se passe bien et heureusement. Oui, oui, oui.
Je suis là pour en témoigner. J'ai rencontré plusieurs familles d'accueil ces derniers temps. Souria, qui résonnait comme Zora, que j'ai rencontré en Isère. Il est vrai qu'il y a beaucoup de départements dans lesquels ça marche. J'ai aussi beaucoup rencontré de jeunes majeurs, qui m'évoquaient vraiment une existence vraiment terrible au sein de certaines familles d'accueil. Elles sont contrôlées comment, ces familles d'accueil exactement ?
Mais c'est-à-dire que les familles d'accueil, elles se sont peu à peu professionnalisées. Aujourd'hui, elles sont agréées, elles sont formées et elles travaillent au sein de dispositifs qui les accompagnent et les soutiennent. Mmh. Donc, mais on voit bien que le passeport que constitue l'agrément ne suffit pas, ni le fait de collaborer avec d'autres professionnels, tellement l'accueil familial repose sur le registre de l'intime. Comment juger la qualité de l'accueil quant à ses aspects subjectifs ? Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un lien beaucoup plus dense et beaucoup plus soutenu entre les familles d'accueil et les équipes de placement familial ou les référents de l'aide sociale à l'enfance.
Ce qui veut dire Laura Iso, qu'il faut peut-être plus d'éducateurs, et qui dit plus d'éducateurs dit plus de budget, et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, peut-être que nous manquons encore d'argent, de budget pour que toutes ces familles d'accueil soient beaucoup plus contrôlées et qu'il n'arrive plus ce type de choses. Mais comme vous l'évoquiez, il y a bien évidemment de familles d'accueil dont c'est la vocation. Nous allons en parler avec Pascal, que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour Pascal.
Petit préambule, je voulais juste vous féliciter pour l'intérêt de vos émissions, parce qu'elles abordent des sujets absolument essentiels, dont celui-là.
Merci beaucoup
et
Pascal.
Évidemment, alors j'ai réagi très fort, parce que quand j'entends ces chiffres, un enfant sur quatre est un SDF, et combien d'enfants aussi placés auront un avenir dramatique, et voire pourront devenir, parce qu'ils ont été tellement maltraités enfants,
des personnes violentes à leur tour. Pardonnez-moi Pascal, parce que nous manquons un petit peu de temps, et je sais que vous avez été délégué du Défenseur des droits il y a quelques années, que vous vous êtes vraiment battu pour cette enfance à protéger. J'ai retenu quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est que vous dites que des familles d'accueil extraordinaires, on leur a enlevé des enfants parce qu'il y avait trop d'attachement, un trop grand attachement.
Absolument. Alors, je vous donne un exemple concret d'une famille qui avait eu un enfant à 5 jours jusqu'à ses 9 ans et un deuxième à 4 mois jusqu'à ses 5 ans. Et on a retiré les enfants du jour au lendemain, quasiment la veille de Noël. Ces enfants, parce que en fait, on reprochait à cette maman d'accueil, cette personne qui accueillait, d'avoir trop d'attachement pour les enfants. Alors en fait, on leur demande, et alors là, pour moi, ça a été quelque chose de très très insupportable à entendre, on leur demande d'être des professionnels. D'être des professionnels, ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'attacher à l'enfant.
Des professionnels du cœur.
Voilà. On leur reproche d'être fusionnelle. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme ? Elle avait simplement demandé de l'aide, du soutien psychologique pour mieux accompagner notamment le premier enfant, qui d'ailleurs, dont la maman ne pouvait absolument pas s'occuper, puisqu'on lui avait retiré tous ses enfants. Et je n'ai pas de jugement pour la maman à qui on avait retiré tous ses enfants, qui avait elle-même certainement ses propres souffrances. Mais l'enfant en question, c'est surtout quand il voyait sa maman qui venait de temps en temps essayer de le voir, mais qui n'avait aucune capacité à le faire, à s'occuper de lui, il était complètement bouleversé, et les troubles du sommeil qu'il avait étaient beaucoup plus des troubles liés à cette maman qui apparaissait de temps en temps et redisparaissait à d'autres moments, qu'aux soins que lui donnait sa famille d'accueil. Mmh. Et pour tous les enfants, surtout arrivés à 9 ans, on réfléchit beaucoup à 9 ans. Et ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
En tout cas, à travers votre témoignage, Pascal, on entend combien la mission de ces familles d'accueil est difficile, parce que au-delà d'être une mission de cœur, elles ont aussi souvent à gérer les rapports de ces enfants avec leurs parents biologiques, des des liens qui sont souvent difficiles et qu'ils sont chargés d'équilibrer, puisqu'ils sont souvent confrontés à ses parents biologiques. En tout cas, il est certain que, voilà, ce qui est rassurant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de familles d'accueil qui font bien leur boulot et que ces enfants sont au moins partagés. Merci Pascal pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Elliot, à Cécile, à Souria, à Adrien de nous avoir partagé leur histoire. Merci aussi à vous, Laura Iso, pour vos éclairages. Le système de prise en charge des enfants en danger a besoin d'être revu. Si beaucoup font un travail remarquable, faute de moyens, l'accompagnement connaît encore des dysfonctionnements graves. Mais nous l'avons vu, être bien pris en charge comme Elliot, cela peut sauver une vie. Cela permet aussi de voir qu'un autre chemin, qu'une autre vie est possible, mais cet accompagnement doit se faire dès le départ. C'est pour cela que si vous êtes témoin ou victime de maltraitance, de négligence, n'hésitez pas à contacter le 119. C'est le numéro vert Enfants en danger, le 119. N'hésitez pas, vous pourrez sauver sûrement une vie ou des vies. Vous pouvez continuer à en parler, bien évidemment, sur les réseaux sociaux.
Via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel, et puis on salue Michel, 28 ans, qui nous a appelé au 39-21, qui voulait simplement rendre hommage à sa famille d'accueil qui l'a accueilli pendant 5 ans.
Europe 1.
S'occuper des enfants, de la maison, de son travail, de ses parents, de tout, c'est ce que l'on appelle la charge mentale. Mais comment y remédier ? Ce sera notre sujet de demain. Si vous devez absolument tout gérer et que cela vous pèse, si votre quotidien n'est que liste de choses à faire, si vous avez pris conscience que votre conjointe faisait tout à la maison et que vous essayez de vous remettre en question, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là avec Ombline pour vous écouter. J'étais ravi à nouveau de passer cette heure avec vous, chers amis. Et puis voici le temps venu de retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. L'une aujourd'hui, puisque ce sont des femmes, l'une représente les couleurs les couleurs de la cuisine française. Et puis l'autre, l'humour au féminin. Salut Carl.
Ah, salut Olivier. Aujourd'hui, je suis vraiment très très bien entouré puisque c'est deux tatas flingueuses. D'un côté, Nadia Rose qui est humoriste et de l'autre, Babette de Rosière qu'on ne présente plus.
Carl Zéro et ses tatas flingueuses, c'est à partir de 16h sur Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve avec Ombline demain à partir de 15h. Au revoir.